technologie au laboratoire LISE, le laboratoire interdisciplinaire pardon, pour la sociologie économique. Son dernier ouvrage paru en 2008, coécrit avec Guy Minguet, s'intitule « Enquête d'innovation, du projet au produit de haute technologie ». Aujourd'hui, Florence Hosty va s'interroger sur la nature de la crise de la reconnaissance. Porte-t-elle sur la reconnaissance ou sur les modes de reconnaissance? Elle constate l'affaissement des marqueurs institutionnels et relationnels de reconnaissance dans l'organisation. Elle nous invite à repenser les conditions de restauration d'un compromis à travers une offre identitaire, intégratrice et la réactivation des dynamiques sociales de métier. Donc je vous laisse la parole.
Bien, merci beaucoup. Donc moi, je vous propose d'aborder la question de la reconnaissance à travers classiquement ces manques ou ces creux. C'est-à-dire qu'on commence à parler de reconnaissance quand il n'y en a plus, justement, ou quand il n'y en a pas assez, et jamais quand il y en a trop. Donc c'est bien à travers la question de la crise de reconnaissance d'essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a une plainte diffuse, massive, qui traite de cette question-là. Est-ce que finalement c'est un phénomène contemporain, d'époque, où il y a quelque chose à comprendre des transformations, des situations de travail dont le symptôme serait cette plainte de reconnaissance? Ou est-ce que finalement la question de la reconnaissance est une question intrinsèque à la condition humaine et que de toute façon, de tout temps, il y a plainte de reconnaissance puisqu'on n'en a jamais assez? C'est plus une quête permanente qu'un besoin qui pourrait être assouvi à un moment donné. Alors, je partirai d'un point de départ qui est un ouvrage précédent sur la question des dynamiques de métier en entreprise. J'avais intitulé ça « Le désir de métier » pour manifester donc cette quête, cette aspiration à pouvoir se réaliser à travers une figure valorisante du travail qui est le métier et qui donnait lieu en même temps en fait à une plainte de non-reconnaissance. C'est-à-dire que ce désir justement, ça restait un état d'aspiration et qui a chopé de manière assez massive sur les conditions d'une reconnaissance. Alors, je m'appuie sur un certain nombre de terrains d'enquête dans des univers de travail extrêmement variés, qui vont d'organisations publiques, au milieu associatif, d'entreprises industrielles, commerciales. Moi, c'est tous les univers de travail dans lesquels j'essaie de me balader. Mais je m'adresse à des populations qui sont fortement intégrées par le travail. Donc, on est sur des populations qui sont en CDI, qui sont et qui s'identifient à la question du métier, même si ça ne renvoie pas forcément à une catégorie sociale reconnue comme telle. Mais en tout cas, vous voyez, des gens qui sont engagés dans leur activité de travail. Donc, ce ne sont pas les populations qui pourraient être à la périphérie, à la marge, dans des situations de précarité ou d'exclusion, et où là, la question de la reconnaissance serait encore plus centrale. Donc, pourquoi se plaignent-ils, tous ces gens qui ont quand même un emploi stable? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, du coup, de ce discours, alors qui fuse dans des entretiens lors d'enquêtes, qui n'est pas exprimé de manière collective et de manière massive, mais qui se dit, à l'occasion d'une enquête ou à l'occasion de relations informelles? Alors, à travers mes travaux de terrain, moi j'ai identifié trois grandes catégories de plaintes qui renvoient à des degrés différents de plaintes. Alors, premier niveau, c'est la question de la frustration. Cette plainte de non-reconnaissance, c'est celle d'une frustration qui renverrait en quelque sorte à une promesse non tenue entre une contribution jugée importante au travail au regard de la rétribution qui serait proposée. Et de ce point de vue-là, on est plutôt sur la question de la transaction entre le salarié et son entreprise, d'une transaction imparfaite, d'une reconnaissance pas suffisante ou décalée par rapport à tous les efforts et toute la contribution demandée aujourd'hui. et notamment tous les efforts d'adaptation à tous ces changements permanents qui peuvent donner un certain vertige, mais en tout cas qui mettent les salariés en situation de remettre en question leur savoir-faire, leur pratique professionnelle. Et finalement, au bout du compte, voilà, est-ce qu'on est reconnu, est-ce qu'on tient compte de tous ces efforts? Eh bien, pas toujours. Un degré supplémentaire renvoie non plus à une question de frustration, mais à la question d'un besoin de légitimation. Là, on est dans la sphère des pratiques réelles, des pratiques professionnelles, et de ce qui est investi dans le réel du travail, c'est-à-dire toutes ces capacités d'initiative, d'intelligence collective et ou individuelle, de ces formes d'intelligence pratique qui sont investies dans la tâche et qui obligent à transgresser tout ou partie des normes et des prescriptions. Et là, la question, c'est le besoin d'être assuré par rapport à ces transgressions, puisque au même moment, la prescription devient de plus en plus lourde et la question du contrôle devient de plus en plus serrée. Et à ce moment-là, les individus sont beaucoup dans des injonctions paradoxales. Soyez inventifs, prenez des initiatives, mais surtout ne transgressez rien. Appliquez les normes qu'on vous demande d'appliquer, ce qui fait qu'évidemment, c'est un peu compliqué. Donc, de fait, les individus inventent des pratiques pour au nom de l'efficacité et se mettent en situation de pouvoir être sanctionnés à ce propos-là. Donc la question, c'est j'ai besoin de savoir que c'est bien ce que je fais, finalement, que j'ai le droit de faire ça, finalement. Au final, est-ce que je fais bien, sachant que quoi que je fasse, si je ne prends pas d'initiative, je serai fautif de ne pas en avoir pris. Et si j'en prends, je serai fautif de ne pas avoir respecté le prescrit. Donc, du coup, un besoin de réassurance par rapport à ces pratiques inventives. Le troisième degré, là, il renvoie à la question d'un doute éthique sur c'est quoi faire bien mon travail aujourd'hui. Donc là, c'est un degré de défiance supplémentaire par rapport à l'institution. C'est la question de la responsabilité face aux dilemmes qui doivent être traités et qui se traduisent aussi par toute une sorte de conflit intrapsychique au niveau de l'individu sur ce qu'il est souhaitable d'adopter comme conduite. C'est-à-dire que là, on est carrément sur un autre principe de réalité. On est obligé d'avoir une pratique qui est contraire à sa conception du bien et du mal, ou du mal, de ce qu'il est bien de faire dans le métier ou de ce qu'il n'est pas bien de faire, voilà, sur la question de la qualité du travail. Et le problème, c'est l'absence d'espace de délibération publique pour s'accorder sur ce qu'il est bien de faire au niveau du travail. Je donne un exemple sur lequel je suis là. Je travaille sur la question des éducateurs et de la protection judiciaire de la jeunesse qui vivent une inflexion, on va dire, de la mission qui leur est attribuée, là où ils se sont construits dans l'histoire sur un principe éducatif qui sortait finalement de... des arcanes pénitentiaires dans lesquelles ils avaient été englués à leur origine, et bien du coup aujourd'hui l'ouverture de prison pour mineurs et la question de peut-on faire de l'éducatif dans les murs de la prison est une question qui traverse beaucoup les débats professionnels sur peut-on faire de l'éducatif, est-ce que je fais bien mon métier en allant du coup faire de l'éducatif en prison avec le risque d'instrumentalisation par l'administration pénitentiaire. Voilà. Donc vous voyez, c'est des questions très concrètes, très réelles, mais qui ne trouvent pas d'espace pour pouvoir être tranchées. Alors, ce qui caractérise toutes ces plaintes, c'est qu'elles sont faiblement socialisées, c'est-à-dire qu'elles trouvent peu d'espace pour pouvoir être travaillées en tant que telles. Et donc, ça s'exprime sur d'autres modes, sur des objets plus classiques de contestation qui véhiculent là aussi ces plaintes. Alors, ce qu'il y a à comprendre dans ces... Ce que l'on peut évidemment comprendre dans cette plainte de reconnaissance, c'est que, évidemment, c'est bien au moment où la reconnaissance se dérobe que cette question-là se fait jour. Et finalement, c'est un processus sans fin, de toute façon, la question d'être reconnu ou de reconnaître, dont l'identité est un enjeu. Donc évidemment, la question de la reconnaissance, elle est très liée à la question de l'identité. Alors moi, j'emprunte à Ricoeur sa distinction dans le parcours de reconnaissance de la forme passive, être reconnu, de la forme active, reconnaître. Alors, dans la question d'être reconnu, cette demande-là, elle s'inscrit, selon Ricoeur, dans un parcours de reconnaissance qui est fondé sur une réciprocité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être reconnu, il faut bien, évidemment, avoir quelqu'un en face qui puisse vous reconnaître et que ce parcours de reconnaissance s'inscrive sur un mode circulaire. Alors, ça concerne quoi ? En fait, la quête de reconnaissance, ça concerne la confirmation d'une capacité ou d'une valeur intrinsèque de la personne qui passe du coup par la relation à l'autre. Donc la relation à autrui, c'est la condition nécessaire d'une transaction positive, c'est-à-dire de pouvoir être reconnu et donc de pouvoir accéder à l'identité. Il n'y a pas d'identité sans interaction. Et là, la question de la reconnaissance réinsiste sur cette dimension-là. Alors, bien sûr, c'est une aspiration, c'est-à-dire que c'est une quête qui est toujours inassouvie. Il n'y a pas un moment où on peut dire « ça y est, c'est bon, je suis reconnu et tout va bien ». C'est-à-dire qu'évidemment, c'est en permanence relancé. La question de l'identification, hein, de ce qu'il y a matière à reconnaître, eh bien, fait l'objet du second processus à la voie active et ça suppose de savoir qu'est-ce qu'il faut reconnaître. Alors, dans l'histoire, il y a la question, est-ce qu'il faut reconnaître l'autre comme membre d'un groupe, c'est-à-dire selon un principe de conformité qui lui permet d'être accepté et intégré dans un groupe ? Plus récemment, à l'échelle de notre histoire humaine, hein, alors plus récemment, ça commence à la Renaissance, en passant par le siècle de Lumière et jusqu'à aujourd'hui, il y a une demande d'être reconnu, pas uniquement comme membre d'un groupe, mais comme sujet, c'est-à-dire comme être singulier. Et donc, il y a bien une opération de rapprochement entre ce que l'on cherche à faire reconnaître et ce qu'il va être reconnu par l'autre, qui repose sur un jugement. Et ce jugement, évidemment, il pose la question des critères de jugement. Et c'est bien sur cet aspect-là qu'il y a matière à réfléchir aujourd'hui. Alors, Ricoeur nous dit que dans ce processus circulaire, dans cette relation de soi à soi qui passe par l'autre, hein, finalement, il y a des clairières. Alors, c'est une très jolie formule, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des expériences effectives de reconnaissance. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et qui justifie le fait de relancer en permanence ce parcours. Alors, pour autant, du coup, je ne sais pas pourquoi ça marche comme ça, c'est pas grave. Voilà. Alors, tout se met dans le mauvais sens. Je suis désolée. Axel Honnête, j'espère, ne m'en tiendra pas rigueur. Alors, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe ? Il y en a un bout qui manque. Voilà. Ben alors, bon, alors tant pis. Je vous dirai quand même ce qui. Voilà. Ouais, et vous avez une flèche quand même hein, qui apparaît. Mais les autres sphères de reconnaissance, justement, sont en souffrance là. Les philosophes qui ont travaillé quand même sur cette question-là, sur la question de la reconnaissance, nous sont d'un apport tout à fait utile hein, pour nous, sociologues, pour penser cette question de la reconnaissance, et notamment les travaux d'Axel Honnête sur la lutte de la reconnaissance. L'intérêt, c'est que Axel Honnête, il s'appuie sur Hegel, sur sa conception de l'élargissement progressif des stades de reconnaissance. Alors, évidemment, on est toujours sur cette question hein, de la relation à l'autre et qu'est-ce qui se joue dans cette relation. Alors, il y a différentes scènes d'interaction que Hegel, repris par Honnête, distingue. Ce sont des effets de relation de soi à soi hein, qui... comment dire, cherche à sollicite une nouvelle forme de reconnaissance à chaque fois. Alors, le premier vecteur de reconnaissance, c'est la scène des relations, de l'intimité, de l'amour, finalement. Et l'expérience de l'amour, c'est ce qui va soutenir un premier bénéfice de cette reconnaissance, qui est la confiance ontologique en soi, et qui passe justement par ces relations-là. Donc on est sur la sphère privée, hein, la sphère de l'intimité, et d'ailleurs, la blessure identitaire, c'est ce que rajoute Honnête, hein, justement, la carence de cette confiance en soi, c'est l'expérience de la violence, justement, qui, et de l'humiliation, qui atteint cette confiance ontologique en soi. La deuxième sphère, c'est celle du droit, des relations juridiques. Et finalement, la reconnaissance, elle passe aussi par l'accès à des droits. Et qui permet, du coup, de donner une certaine valeur égale aux personnes en fonction des droits auxquels elles peuvent accéder. Et qui permet de construire une autre forme de reconnaissance qui est le respect de soi. Voilà. Le respect de soi, il passe par l'accès à des droits. Et d'ailleurs, c'est bien la question de ceux qui sont exclus d'un certain nombre de droits, hein, et qui se sentent justement pas respectés. Et l'expérience de mépris dont parle Honnête, hein, c'est-à-dire l'envers de cette reconnaissance, c'est l'exclusion justement de droits, et qui fait qu'on n'est plus reconnu comme partenaire à part entière. La dernière scène, alors qui historiquement, voilà, elles se construisent, vous voyez, selon un processus croissant, et c'est celle, la seule qui est affichée, c'est la sphère, du coup, des relations sociales, et c'est la question de la solidarité. Alors, en fait, ça renvoie à quoi ? C'est pas très, moi, j'ai trouvé ça pas très, très clair, cette formulation. En fait, c'est la contribution à la société. Voilà. Donc, la reconnaissance, ça passe aussi par la reconnaissance d'une contribution à la société qui est le support de l'estime de soi. Du coup, avoir la conviction que ce que l'on peut faire, voilà, est utile à la société, et l'inverse, c'est la question de l'humiliation, la dépréciation de la valeur d'un individu, son dénigrement, de son déclassement. Alors, c'est d'ailleurs, je dirais, sur cette dernière scène, et peut-être pour ça qu'il n'y a pas de hasard que ce soit la seule qui s'affiche, c'est peut-être celle-là qui nous intéresse en premier lieu par rapport à l'entreprise. J'essaie de me rattraper comme je peux. Parce que, au final, l'expérience de l'amour en entreprise, c'est pas forcément celle-là que j'ai été regarder de plus près. Il me semble qu'effectivement, il y a d'autres domaines de la vie sociale où cette situation-là est plus pertinente. La question de l'acquisition des droits, moi, je m'intéresse à ceux qui ont les droits, hein, dans l'entreprise, hein, et qui sont intégrés fortement. Donc, ce n'est pas cette question-là, finalement, qui va être vraiment en jeu. C'est plutôt la question de la contribution sociale, de l'estime, de la valorisation, finalement, des individus reconnus par rapport à leur engagement au travail. Alors, je ne sais pas sur quoi. Quelle découverte je vais faire à chaque diapo. Alors, voilà, Honnête, ce qui l'intéresse, c'est quelles sont les conditions pour s'engager dans une lutte pour la reconnaissance. Alors, en fait, il ne parle pas du travail, hein, tellement, hein, ce n'est pas tellement ça son sujet. Mais ce qui met en évidence, c'est que ça repose sur l'expérience du mépris. Hein, de ces formes carencées de la violence, de l'exclusion, de l'humiliation, qui sont des ressorts de l'engagement dans une lutte pour revendiquer davantage de reconnaissance. Ça veut dire qu'il y a atteint de l'image de soi, forte, et suffisamment forte pour susciter des émotions négatives, et ce qu'il appelle le sentiment de honte, qui est le ressort psychologique qui permet de s'engager, du coup, dans la lutte. Alors, moi, je n'ai pas vu ça du tout en entreprise. Hein. Alors, ça peut exister, bien sûr. Hein. Il y a des situations extrêmes. Enfin, la plainte qui m'a été formulée ne relève pas de ce travail-là. Alors, justement, en fait, l'évoquer, ça permet aussi de dire de quoi il en retourne. Et moi, il me semble que, effectivement, cette théorie-là, elle est tout à fait utile pour bien d'autres domaines de la société. Mais pour l'entreprise, ça me semble... On n'est pas dans la lutte. Voilà, moi, ce n'est pas la lutte que je vois. La lutte pour la reconnaissance, c'est la plainte. Alors, la plainte, c'est autre chose, justement. S'il n'y a pas de lutte, est-ce que pour autant il n'y a pas d'expérience de mépris ? Est-ce que pour autant, du coup, la question de la reconnaissance est réglée ? Eh bien non, en fait, il me semble bien que c'est sur la question de l'absence d'approbation, c'est-à-dire l'absence d'estime sociale, que se fonde une autre dimension qui est celle de la plainte. Ce n'est pas tellement le mépris, c'est plutôt l'idée d'une carence de reconnaissance. Elle est à la fois, elle existe forcément, sinon il y aurait mépris, sentiment de honte, il y aurait plus que de la plainte, il y aurait fort sentiment de malaise, il y aurait souffrance. Hein, ce qui est aussi un scénario qui existe. Mais lorsqu'on n'est pas tout à fait qu'on n'est pas uniquement dans la souffrance, dans la plainte, ça veut dire qu'il y en a de la reconnaissance, puisqu'il n'y a pas que de la souffrance, mais il n'y en a pas suffisamment pour qu'il n'y ait pas cette plainte. Voilà. Donc il y a cette plainte, ça traduit un clair-obscur, une espèce de doute sur sa valeur, et qui me semble être tout à fait éclairé par les travaux d'un autre philosophe qui est Emmanuel Renaud, qui lui va parler de reconnaissance carencée, qui me semble être une notion beaucoup plus opératoire pour rendre compte de cette question de la plainte. Alors Emmanuel Renaud, d'ailleurs, à la différence d'Honnête, il fait de l'institution non pas un espace où il y aurait l'expérience de relations intersubjectives de reconnaissance ou pas de reconnaissance. Lui, il fait de l'institution aussi un opérateur de cette reconnaissance carencée. C'est-à-dire que finalement, ce qu'il renvoie à l'institution, c'est qu'elle a aussi un rôle dans la production de cette plainte, dans la production de ces formes de reconnaissance carencée. Et du coup, ça nous réinterroge sur ce rôle, cette fonction, quel est-il et par quoi ça passe. 5 minutes. Oh. Donc, uniquement un petit point, je vais passer un peu vite. Cette question de mésestime, d'estime qui n'est pas suffisante et qui explique en partie le fait que ça ne fait pas l'objet d'une action collective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de souffrance partagée et socialisée collectivement pour faire l'objet de l'engagement dans une lutte. Il distingue en fait trois cas différents qui me semblent tout à fait intéressants, du coup, pour affiner la lecture de la plainte. C'est la question de la dépréciation, d'une part. Donc, c'est le fait de ne pas être reconnu à sa juste valeur. Voilà. On est reconnu en partie, mais pas à sa juste valeur. Pas à la hauteur de la représentation que l'on a de la grandeur de son métier. Le déni, c'est une autre forme de reconnaissance carencée, puisque là, c'est l'invisibilité d'une partie de ce qui est fait. C'est la négation du métier au profit d'une simple fonction, par exemple. On dénie l'épaisseur sociale de ce qui est engagé au travail pour le rabattre sur une simple fonction, un simple travail avec parfois peu de qualifications. Et donc, du coup, il n'y a pas beaucoup... c'est simple à faire, tout le monde peut le faire. Voilà. Donc là, effectivement... le déni, c'est un autre cas de figure. L'insuffisance renvoie à ce qu'il appelle la reconnaissance fragmentaire ou fragmentée. C'est-à-dire que finalement, il y a des formes de clivage. Il n'y a qu'une partie qui va être reconnue de ce qu'on fait. Voilà. Et toute une autre partie, finalement, génère ce qu'on peut appeler une sorte d'incertitude identitaire. C'est-à-dire qu'on n'est plus sûr de ce qu'on est. Voilà. Donc vous voyez bien que cette question de la plainte, en fait, elle renvoie à quelque chose qui est plein de nuances à apporter, qui est qu'il y a à la fois des opérateurs de reconnaissance, mais à la fois des opérateurs qui empêchent ces relations intersubjectives de reconnaissance de prendre tout leur espace et toute leur place. Alors ça, c'est une première lecture des choses. La deuxième lecture, qui sera aussi une lecture un peu conclusive pour ne pas prendre trop de temps, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette plainte émerge aujourd'hui et n'émergeait pas, en tout cas dans les travaux sociologiques des Trente Glorieuses, c'est pas du tout ça qui ressort. Hein, on va parler de lutte sociale, on va parler d'aliénation au travail, Friedman va parler de tristesse ouvrière, mais on ne parle pas de plein de reconnaissance. Et du coup, il me semble qu'il y a quelque chose aussi à comprendre de la transformation des systèmes productifs, qui fait que ce n'est pas qu'il y avait plus de reconnaissance avant, hein, dans l'absolu, mais c'est qu'il y avait des vecteurs ou des marqueurs de reconnaissance qui probablement se sont affaissés et qui, dans leur disparition, eh bien, laissent le pas à cette plainte de reconnaissance. Alors, j'en dis quelques mots. Moi, il me semble que lors de cette période qui est parfois réenchantée, d'ailleurs, même par les sociologues actuellement, hein, des Trente Glorieuses, il y avait cette idée que finalement, on existait comme catégorie collective. On était membre d'une catégorie, on était membre d'un groupe social, et que finalement, la reconnaissance, elle passait par l'acquisition des droits qui étaient liés à cette catégorie, qui étaient liés à des critères objectifs, à des qualifications, à toute une série de règles qui venaient soutenir la construction d'une catégorie collective. Et que finalement, la demande, elle était adressée non pas autour d'une reconnaissance de la subjectivité au travail. Finalement, la subjectivité, c'était ailleurs qu'on cherchait à la faire reconnaître, mais pas au travail. Ce qu'on cherchait à faire reconnaître, c'est une reconnaissance comme partenaire dans la négociation, une reconnaissance catégorielle. Et par ailleurs, dans les relations de travail, pouvait effectivement se jouer un autre niveau plus symbolique de reconnaissance sur la qualité du travail, etc., sur les jugements de beauté dont parle De Jour. Et il me semble qu'effectivement, aujourd'hui, on est face à une situation où la construction de soi au travail est plus incertaine, plus individuée, moins balisée par notamment les outils de gestion, hein, puisqu'on est passé sur des outils plus individualisés, hein, de gestion des parcours, des compétences, etc., et qui donne lieu finalement à des demandes de reconnaissance comme sujet. Ce qui est quand même beaucoup plus compliqué, il faut le reconnaître, hein, pour les gestionnaires des ressources humaines, c'est quand même beaucoup plus compliqué, et qui est de faire reconnaître l'expérience singulière, voilà, de ce qui est vécu singulièrement au travail. Et qu'il me semble qu'effectivement, dans ce basculement-là, il y a aussi à comprendre pourquoi ça émerge avec tant de force. Ce qui cherche à être connu, je vais passer là-dessus, c'est la confirmation, hein, de la valeur de cette mobilisation au travail qui est requise par les organisations. Hein, l'engagement subjectif est requis. Et du coup, finalement, quelle est la valeur de cette mobilisation au travail ? Qu'est-ce qui peut être reconnu à travers, justement, tous les bricolages vertueux qui sont mis en œuvre dans le travail, ces pratiques autonomes, ce qui demande à être reconnu aussi, c'est l'intention de bien faire, l'intention qui préside aussi aux pratiques, donc la question de l'éthique ou de la morale de travail, mais c'est aussi les compétences, comme savoir pratique et pas uniquement comme qualification individuelle. Pour terminer, il me semble que une des pistes, ce serait peut-être de comprendre que derrière cette demande de reconnaissance, il y a plusieurs objets, et peut-être à penser en même temps. Donc la question du rapport de l'individu à son activité de travail, donc comment reconnaître ce qui est engagé dans l'activité de travail, la reconnaissance de l'individu comme parcours à travers toute l'accumulation des expériences dans sa trajectoire professionnelle, et c'est aussi ça qui cherche à se faire reconnaître, et également la question de l'existence des collectifs de production, du lien social de production, comme étant un facteur, là aussi, d'efficacité. Et là, il me semble qu'il y a des valeurs contributives sur cette question du collectif de métier à travers les contributions d'Yves Clos, notamment, hein, de travailler le métier au carré, comme il dit, c'est-à-dire le travail du métier sur lui-même. Et ce qui nous amène, alors là, c'est plus adressé, on va dire, aux acteurs la gestion ou au management, enfin bref, du coup, à ceux qui participent d'une pensée sur les vecteurs de reconnaissance et les acteurs de la reconnaissance, et où là encore, on ne peut pas penser qu'on va s'en sortir uniquement en pensant la reconnaissance institutionnelle à travers la renégociation salariale, par exemple. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais en tout cas, ça me semble être un peu limité compte tenu de tout ce qu'on a dit. Et qu'il y a évidemment à considérer à la fois le destinataire du service dans une société très largement irriguée par l'activité du service comme étant un miroir de reconnaissance, et parfois c'est même le seul qui subsiste dans bien des activités. Les pairs, c'est-à-dire, et là je rejoins tout à fait les préoccupations d'Yves Clos sur revitaliser le collectif de métiers, les pairs, comme étant un vecteur extrêmement important de circulation des relations de reconnaissance, de réassurance, et face à ces questions sur qu'est-ce qui est bien de faire ou qu'est-ce qui n'est pas bien de faire et comment on peut partager ça. Et puis, bien sûr, la hiérarchie, qu'il ne s'agit pas de diaboliser, mais qu'il s'agit de soutenir justement dans sa capacité à pouvoir opérer une reconnaissance, pas uniquement lors des entretiens d'évaluation annuels, mais aussi au fil de l'eau. C'est-à-dire comment faire rencontrer les différents niveaux hiérarchiques avec celui des collaborateurs par peut-être une plus grande superposition ou compréhension, voilà, des activités des uns et des autres pour pouvoir les reconnaître. Voilà, il me semble que la reconnaissance que uniquement par le truchement des outils de gestion reste insuffisante pour pouvoir être un opérateur réel de reconnaissance. Voilà, je vous remercie de votre attention.